Bonjour et bienvenue, 10h TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, un troisième jour de guerre entre Israël et l'Iran. Les hostilités déclenchées par le programme nucléaire de l'Iran font des victimes dans les deux pays. Au moins 13 morts israéliens, mais pas de bilan chiffré. Récemment, côté iranien en Iran, l'armée israélienne vise surtout des sites militaires considérés comme stratégiques, mais aussi des installations pétrolières, à suivre dès le début du journal. Aux États-Unis, les opposants de Donald Trump ont manifesté en masse. Ils étaient des centaines de milliers hier à dénoncer ces dérives autoritaires. Donald Trump qui convoite le Groenland où se rend ce dimanche Emmanuel Macron. En France, Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur. L'ancien président rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore se prononcer sur son recours dans l'affaire des écoutes. Israéliens et Iraniens continuent de s'affronter au troisième jour d'un conflit qui a commencé vendredi avec l'attaque massive d'Israël. Ce matin, des détonations ont retenti dans la capitale iranienne Téhéran. L'armée israélienne dit avoir visé des cibles liées au projet d'armes nucléaires de la République islamique, notamment le ministère de la Défense, ainsi que le siège de l'Organisation d'innovation et de recherche défensive, le SPND. Le premier ministre israélien ne cache pas qu'il veut frapper tous les sites du régime avec pour objectif d'empêcher l'Iran de détenir l'arme nucléaire. Des dépôts de carburant ont également été frappés, faisant dire sur le réseau X au ministre israélien de la Défense que Téhéran brûle. Et je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'une Iranienne, Tanaz, 42 ans. Elle vit juste à côté des dépôts de carburant de Shahran, situé au nord de Téhéran. Ils ont été frappés dans la nuit, provoquant un incendie très important qui finalement a été maîtrisé ce matin.
Je suis employée et chaque matin je dois aller au travail et malgré la situation actuelle, je continue d'aller au travail. La vie continue à peu près normalement. J'ai une mère malade qui devait être opérée cette semaine et son opération a été annulée. J'ai un ami qui vivait au second étage de l'immeuble où habitait le chef des gardiens de la Révolution qui a été tué dans les opérations israéliennes dans une frappe qui a détruit l'immeuble. Dire qu'on vise que les militaires n'a pas de sens. Comment je peux savoir qui sont mes voisins? Tout le monde vit côte à côte. Lorsque les Israéliens disent qu'ils visent les chefs militaires ou les centres sensibles, cela n'a pas de sens. Lorsqu'ils frappent les dépôts de carburant de Shahran dans le nord de Téhéran, moi je vis à côté et je suis affectée. J'espère que tout va redevenir normal et que la raison l'emportera.
Un témoignage d'une Iranienne recueilli par Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Dans un communiqué publié ce matin sur le réseau X, l'armée israélienne appelle les Iraniens à évacuer les zones situées à proximité d'installations militaires. En riposte aux frappes israéliennes, l'Iran a lancé des séries de tirs de missiles sur le centre et le nord d'Israël. 10 personnes sont mortes et plus de 200 blessés depuis hier soir, portant à 13 le nombre de morts en Israël depuis le début du conflit. En revanche, aucun bilan chiffré est disponible récemment côté iranien. L'attaque de vendredi a fait sombrer les maigres espoirs d'un règlement diplomatique de la question du nucléaire de l'Iran. Représentants américains et iraniens devaient se retrouver ce dimanche dans le sultanat d'Oman pour un nouveau cycle de négociations, le sixième. D'âpres discussions en vue d'éviter d'Iran de se doter de la bombe nucléaire. Alors que la guerre est engagée, ces négociations sont annulées. Sébastien Farcy.
Ces négociations avaient été initiées par Donald Trump, qui se projette comme un grand faiseur de paix. Et elle portait sa marque, c'est-à-dire qu'elle devait être courte et mener le pistolet sur la tempe. Les Iraniens avaient en effet 60 jours seulement pour accepter les conditions américaines. Irréaliste, car il avait fallu 2 ans aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité pour obtenir l'accord précédent signé en 2015, accord qui a d'ailleurs été rompu par Donald Trump lui-même 3 ans après. Malgré tout, les Iraniens très affaiblis dans la région avaient joué le jeu pendant 2 mois. Le jeu est terminé maintenant dès le 61e jour de cet ultimatum. Avec le bombardement des sites d'enrichissement iraniens, Israël fait voler en éclats toute diplomatie trumpienne sur le nucléaire. Un pari risqué. Beaucoup disent que si l'Iran réussit à protéger son uranium, le régime sera d'autant plus pressé de se doter de la bombe. Une bombe qui servira alors de dissuasion contre de futures attaques israéliennes.
allié d'Israël, le président américain Donald Trump a prévenu l'Iran que son armée répliquerait avec toute sa force s'il attaquait les États-Unis, réaffirmant que son pays n'avait rien à voir avec les attaques israéliennes. Le même Donald Trump vient de connaître la plus importante journée de mobilisation de ses opposants depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche. Ils étaient hier des centaines de milliers à travers les États-Unis pour dénoncer ces dérives autoritaires. Journée émaillée de quelques incidents comme à Salt Lake City et à Los Angeles où la police a fait usage de gaz lacrymogène. Ces manifestations se tenaient dans le cadre d'une journée nationale de contestation le même jour qu'une grande parade militaire à Washington à l'initiative du locataire de la Maison Blanche. Il est le premier chef d'État étranger à mettre le pied sur ce territoire. Emmanuel Macron se rend ce dimanche au Groenland, territoire grand comme quatre fois la France et couvert à 80% de glace. Le Groenland, qui est rattaché au Danemark, est convoité par Donald Trump, qui rêve de mettre la main sur ses métaux rares. Muriel Paradon.
Le Groenland n'est pas à prendre, déclarait récemment Emmanuel Macron face aux appétits de Donald Trump. Ce territoire autonome du Danemark est riche en métaux rares et se trouve sur les nouvelles routes maritimes du fait du réchauffement climatique. Il suscite donc les convoitises du voisin américain. Mais pour le président français, qui se veut porteur d'un message de solidarité européenne, il faut défendre la souveraineté du Groenland et lui apporter un soutien à la fois politique et économique. Lors de sa visite, Emmanuel Macron sera reçu par le premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen et la première ministre danoise Mette Frederiksen. Ils se rendront ensemble à bord d'une frégate pour discuter des enjeux de sécurité de l'Arctique, une zone stratégique. L'autre thématique forte de cette visite sera la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel Macron devrait survoler un glacier en hélicoptère alors que la fonte des glaces au Groenland s'accélère dangereusement et menace, avec la hausse du niveau des mers, une grande partie de la planète.
Emmanuel Macron est attendu à Nuuk, la capitale groenlandaise, à 11h30, heure locale, 12h30, temps universel.
RFI.
Nouvelle catastrophe aérienne en Inde. 7 personnes ont été tuées dans l'accident d'un hélicoptère qui transportait des pèlerins hindous dans les montagnes de l'Himalaya. Quant aux obsèques des victimes de l'accident du Boeing d'Air India jeudi à Ahmedabad, elles doivent débuter ce dimanche avec au moins 279 morts. C'est la pire catastrophe aérienne en Inde depuis 2014. En France, le premier TGV Train Italia de la ligne Paris-Marseille devait partir ce matin peu avant 8h. Après les dessertes Paris-Lyon et Paris-Milan, la compagnie ferroviaire italienne devient le principal concurrent de la SNCF sur ses terres. Cette nouvelle offre sur une ligne déjà surchargée entre Paris et Marseille s'appuie sur des prix très agressifs. Reportage d'Anne Verdaguet.
Avec un Paris-Marseille à partir de 27€ en seconde et 37 en première, l'offre de Trenitalia devrait séduire les voyageurs, même si les 4 allers-retours par jour sont encore loin de pouvoir concurrencer l'offre de la SNCF entre les deux plus grandes villes de France. Marco Capocciuti, le responsable de Trenitalia France.
Notre offre est une offre alternative et complémentaire à SNCF. Aujourd'hui, notre intérêt est d'offrir bon service, service de qualité et de gagner les marchés pour avoir plus clients sur le train.
L'objectif pour la première année est de remplir les trains de 50 à 60%, soit 1 million de voyageurs espérés. La SNCF garde la tête froide. En tant que gestionnaire du réseau, sa filiale prélève un droit de passage à Trenitalia. Mathieu Chabanel, le directeur de SNCF Réseau.
Ces nouveaux trains, c'est plus d'offres, mais c'est aussi pour SNCF Réseau plus de recettes. Et ces recettes, elles vont directement dans la modernisation, l'entretien du réseau. Donc nous, on s'en réjouit. Et puis je crois que dans un marché qui est en croissance, avec de plus en plus de demandes de trains, ces offres, elles s'ajoutent aux offres existantes et donc là aussi c'est positif.
Trenitalia qui sera bientôt rejoint par la compagnie espagnole Renfe qui a également annoncé son arrivée sur la liaison Paris-Marseille.
Enfin, c'est son avocat Maître Spinozzi qui le fait savoir. Nicolas Sarkozy prend acte de son exclusion de la Légion d'honneur et il rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme doit encore se prononcer sur son recours dans l'affaire des écoutes. L'ancien président français s'est vu retirer la plus haute distinction française, sanction rarissime pour un ex-chef de l'État. Elle a été prononcée à la suite de sa condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption. Nicolas Sarkozy devient le deuxième seulement dans ce cas après le maréchal Pétain. À suivre sur RFI Religion du Monde, l'émission de Véronique Guémard, émission enregistrée avant le déclenchement des hostilités entre Israël et l'Iran.